vision plus large des choses. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Pression, alors, pression.
Pression, pression. Il reste une vingtaine de minutes à peu près à l'émission et je veux vous parler un petit peu des premiers moments quand j'ai rencontré Guillaume ici chez Cogeco. Guillaume est arrivé ici avec sa formation et son expertise, docteur en psychologie, et on voulait évidemment aborder des sujets plus de psychologie dans l'émission. Et Guillaume est arrivé avec une liste de thèmes qu'il voulait aborder. Des thèmes qui, après ma barre, on lit les mots, là, et ça peut être des thèmes qui ont un potentiel de controverse assez élevé. Je vois
un score potentiel.
Oui, un score potentiel assez élevé. Oui. Et Guillaume, en fait, est arrivé ici, puis ta crainte, ben pas ta crainte, mais disons que ton désir, c'était d'avoir une belle liberté pour aborder respectueusement ces thèmes-là. Et tu disais, il me semble que c'est le rôle des médias d'être capable d'aborder de manière nuancée et respectueuse des thèmes comme ceux-là. On peut donner un exemple, par exemple, qu'on a abordé. On a parlé de violence, par exemple. Oui. Et ça, c'était un thème que tu voulais aborder. Mm-hmm. Et bon, on l'abordait avec un discours peut-être un petit peu nuancé par rapport aux grands courants qu'on peut entendre. Il y en avait d'autres aussi.
Ouais.
Et Guillaume, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment tu t'es senti dans le fait d'avoir une tribune comme ça, de vouloir aborder des thèmes qui vont un petit peu à l'encontre de certains courants qu'on a présentement dans la société.
Ben, mon Dieu, j'ai vécu cet été-là quand même avec une certaine pression. Tu sais, c'est quand t'as le privilège d'avoir une place médiatique, parler à plein de gens, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un privilège qui vient avec des responsabilités. Puis je pense que je méritais à quelque part ce privilège-là, mais ça ne veut pas dire que je dois le mériter à tous les jours. Ça se mérite à tous les jours. Mm-hmm. Donc, je me suis jamais dit que, OK, là, ça roule, là, c'est correct, là, tu sais, puis je peux comme juste dire des affaires. Jamais, jamais une seconde, je me suis dit ça. Puis j'ai toujours fait attention à dire, OK, quel angle je vais utiliser, quel mot je vais utiliser, comment on va amener ça, comment on va intéresser les gens puis voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Ça a été un défi, puis ça a été vraiment un privilège, justement, que au 98.5 ici, on a l'appui pour faire ça. Et ça, c'était quelque chose qui m'inquiétait au début quand ils m'ont appelé. Mm-hmm. Puis je dis, ben, tu sais, je sais pas si vous êtes conscient, mais en ce moment, on n'a pas le droit de dire grand-chose. Puis je sais pas si vous êtes conscient, mais moi, je dis des affaires qu'il y a des gens qui détestent, surtout des groupes militants. Puis tout ça, je le sais, c'est comme ça. Ça fait 10 ans, ça a toujours été comme ça. Puis j'ai tout le temps senti que la station était en arrière de moi en disant, si c'est fondé, si c'est bien exprimé, si c'est justifié et constructif, parfait. Je me suis dit, OK, parfait. Et là, on s'est embarqué là-dedans. Tu sais.
Puis le titre de notre émission, ça a été... en fait, rapidement, on voulait que ce soit un titre qui appelle à la nuance. Et c'est pour ça que ça a été ni noir ni blanc. La nuance, aujourd'hui, Guillaume, dans notre société, n'est pas tellement à la mode. Mm-hmm. Et on vit à une ère un petit peu où le réflexe des êtres humains, c'est lorsqu'on entend un discours très radical sur un sujet, ben notre réflexe, c'est de faire le contrepoids en allant à l'autre extrême sur le contenu de ce thème-là. Et ça fait en sorte que les discussions dans la société ne sont absolument pas nuancées.
Oui.
Comment on peut avoir un discours nuancé aujourd'hui en 2021?
C'est une super bonne question. Puis je suis content qu'on prenne la fin de l'émission pour parler de ça parce que on confond la nuance avec le flou. C'est-à-dire, moi, je suis nuancé et puisque je suis nuancé, ça ne fera pas de vague. Et donc, on va utiliser soit des thèmes flous, soit ne pas assumer quelque chose, soit dire quelque chose et dire son contraire. Comme ça, ça se balance, puis ça a de l'air nuancé. La nuance, ce n'est pas du flou ou l'absence de positionnement. Ce n'est pas ça que ça veut dire. La nuance, ce n'est pas même une intention. La nuance, c'est un résultat d'un processus où on implique beaucoup de variables qui sont dans des phénomènes qui sont complexes. Quand tu adresses de la complexité, la conséquence, ça va être de la nuance.
Ben écoute, je vais donner un exemple très clair que les gens comprennent bien. Les changements climatiques. Extrême numéro un, il n'y a pas de changement climatique. Ouais. C'est une invention des médias, puis changer absolument rien. Oui. L'autre extrême, c'est les changements climatiques. Bon, c'est grave, demain matin, abandonnez votre voiture dès maintenant, dès cette seconde-ci, restez chez vous, faites plus rien. Bon, ça, c'est les deux extrêmes et c'est ce qu'on entend. Entre les deux, il y a un discours nuancé qui est moins à la mode un peu.
Exactement, mais c'est moins la mode parce que c'est beaucoup plus de troubles arriver à une nuance, parce que ça prend des connaissances, puis des connaissances qui sont valides, puis ça prend une réflexion qui te permet de faire des liens entre tes variables, puis de peser la causalité de tes variables, puis peser tes corrélations, puis c'est multivarié. Donc, la solution pour avoir de la nuance, puis plus on est nuancé, plus ça adresse la réalité, mais c'est beaucoup, beaucoup d'éducation. Et souvent, les gens sous-estiment à quel point les choses sont complexes dans la vie, puis la plupart des gens, puis c'est même démontré scientifiquement que les gens se sentent de plus en plus compétents dans tout. C'est absolument incroyable.
Oui. L'université de la vie m'a donné un diplôme dans tout.
C'est parce que, mais puis c'est une illusion qui est créée parce que on a accès à de l'information. Puis c'est vrai qu'il y a des grandes banques d'informations sur Internet, mais encore là, quelle est la bonne information? Quelle est la bonne information? Puis même si c'est une bonne information, c'est une information sur des millions d'informations nécessaires pour arriver tranquillement à un jugement qui est plus proche de ce qui est vrai. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'experts. Puis des experts non militants. Des experts les plus objectifs possibles. Et c'est ça qui est difficile en ce moment, qui empêche la nuance.
Puis en fait, ben oui, c'est vrai, parce qu'on dirait que surtout dans la dernière année et demie, en pleine pandémie mondiale, ces phénomènes-là que tu décris se sont manifestés. Les experts en épidémiologie, les experts en maladies infectieuses qui n'ont absolument aucun diplôme en médecine. Puis c'est vrai que le sentiment d'avoir de l'information que les autres ne possèdent pas, le sentiment de connaître la vérité par rapport à ce que le grand discours vous dit, c'est de plus en plus présent.
Oui, puis... mettons la vaccination, le passeport vaccinal, tout ça. Tu sais, bon, c'est quoi les opinions? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une communauté est résistante par rapport à ça? Puis il y a des gens là qui sont, je veux dire, c'est pas des malades mentaux là, c'est des gens brillants, puis ils vont te regarder droit dans les yeux, ils vont dire ben non, je n'accepte pas ça. Puis là t'es comme mais pourquoi? Puis là ils vont t'arriver avec un fait, ok, genre par exemple, puis un fait que tu peux pas contredire parce que c'est pas nécessairement faux, puis t'es pas un expert là-dedans. Je te donne un exemple, quelqu'un m'a sorti à un moment donné, oui parce que l'ARN messager ne fonctionne pas comme ça pour ce type de.
Garde,
moi, là. Je suis pas un expert là-dessus, j'en ai pas d'opinion parce que ce n'est pas mon expertise, puis j'essaie même pas de lire là-dessus parce que même si je lis là-dessus, ça veut rien dire pour moi parce que à quelque part, j'ai la conscience de quand est-ce que je suis dépassé par un phénomène, fait que je veux dire je l'aurais pas cette expertise là, mais il y a pas ça sur bien des gens, ils disent non moi je l'ai compris ce phénomène là. Donc il y a comme l'inconscience de où se situe leur niveau de compétence et de connaissance. Et on n'a comme plus de barème, ce qui fait en sorte que tu crois des choses. Mais c'est tellement une fraction de l'information que ça te déconnecte de la réalité.
Mais
donc, on est dans ça.
Mais en même temps, les barèmes sont là. C'est juste qu'ils se sont un petit peu effacés dans la conscience des gens. Je veux dire, aujourd'hui, en 2021, il n'y a personne qui devient médecin en lisant des articles sur Internet. Là, ça n'arrive pas. Il faut que tu aies à l'école, il faut que tu obtiennes un diplôme, il faut que tu fasses des cours, une résidence. Bon, et ensuite, tu es nommé officiellement médecin. Fait que ça, les barèmes qui sont encore là est clair. Mais dans la tête des gens, l'abondance d'informations a fait en sorte, on dirait...
Créer un sentiment de compétence et de jugement éclairé. Puis là, quand, évidemment, il y a d'autres processus là-dedans. Il y a le postmodernisme, le fait de protester contre la réalité, ma vérité. Tu sais, il y a plein de facteurs là-dedans. Mais c'est sûr que ça rend, pour venir à notre émission, ça rend le fait de se prononcer sur des choses... on marche plus sur des œufs, puis en ce moment, les médias n'aident vraiment pas parce que beaucoup de médias n'ont pas de colonne, ils n'ont pas de leadership pour protéger la liberté de parole, pour protéger l'expertise, et on travaille beaucoup à plaire aux militants extrêmes, on a la culpabilité facile, on veut pas choquer personne, donc c'est un terrain qui est dangereux pour l'exposition médiatique. Et c'est pas ça qu'on a vécu ici, c'est pas ça que j'ai vécu moi ici. Ici, là, je me sentais appuyé, puis je me sentais respecté, puis ça a été vraiment un travail d'équipe pour dire comment on rend ça constructif. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit constructif? Puis moi, je n'ai que de la reconnaissance pour toi, premièrement, de m'avoir appuyé. Ça a été tellement une expérience incroyable avec toi. J'ai adoré ça. Mais aussi pour les gens qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas à la radio, Normand, Isabelle, nos recherchistes, Julie Christine, Pierre Martineau, c'est des gens là qui sont toutes là pour nous protéger, pour savoir comment on aborde les choses, quelles questions on pose au public. Et c'est un gros travail d'équipe, mais le mindset, c'est on avance vers plus de vérité, on avance vers quelque chose de constructif, puis on va être plus fort ensemble. Ça, c'est le rôle des médias, ramener les gens ensemble.
Avoir un certain leadership et c'est pour donner la bonne information et surtout donner tous les côtés à une médaille. Oui. Ça devient de plus en plus important, là, surtout dans une société où les courants, effectivement, militants prennent énormément de place.
Exact.
Alors, c'est vrai que ça devient pertinent de le faire. Alors, ça a été notre expérience pour cet été. On va devoir s'arrêter pour la dernière pause de l'émission. Au retour, restez avec nous jusqu'à midi, je vous l'ai dit. On a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, il y en a qui ont déjà commencé à spéculer, là, je sais, par texto 98985 sur Facebook également. On vous annonce tout ça dans quelques minutes.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir, Ni Blanc avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
Juste avant la pause, on parlait du courage des médias puis à quel point, Guillaume, tu t'étais senti appuyé ici pour avoir un discours qui était nuancé et pas nécessairement toujours en conciliation avec le grand discours militant qu'on peut entendre. J'aimerais ça t'entendre, Guillaume, sur les politiciens de demain.
Ouais.
Toi, quand même, avec ton expertise en psychologie, il n'y a pas juste l'aspect politique à un politicien, il y a l'aspect communication aussi, l'aspect leadership. Qu'est-ce que tu aimerais voir chez les politiciens de demain que tu ne vois pas nécessairement aujourd'hui?
Ben, j'aimerais des politiciens qui comprennent plus comment ça marche, la psychologie humaine. Parce que on gère un pays, on gère des comportements humains, on gère 30 millions, 40 millions de cerveaux. Si tu comprends rien, un cerveau, qu'est-ce que tu fais exactement? Et il y a comme une espèce de déconnexion entre le développement des organisations, l'économie, puis la politique. C'est du jus de cerveau qu'on gère, c'est ça. Et je trouve qu'on n'a pas cette expertise-là, ce qui fait en sorte que on répare des protestations. Puis en ce moment, la mode, c'est obéir à tout ce qui est victimisation sans aucune statistique solide. On n'est même pas capable. Les politiciens savent pas lire des bonnes statistiques. On sait même pas comment faire une bonne analyse. Comment tu fais telle corrélation? Comment tu fais une attribution factorielle, par exemple? Comment tu fais pour savoir que ça, c'est vraiment ta variable causale? Comment tu fais pour savoir que ça, c'est pas juste une covariable puis elle est pas si importante que ça? Comment tu fais pour voir clair dans les chiffres? C'est vraiment, ça devrait être fondamental, une bonne base de psychologie puis des stats. Faut être bon en stats. Lorsqu'on gère plein de cerveaux ensemble, comment tu fais? Tu vas pas parler, faire une thérapie à chacun des 30 millions de personnes que tu gères, genre au Canada. Donc, ça prend des chiffres qui indiquent des mouvements, puis la façon dont les gens se comportent. Ça prend des chiffres qui sont fiables, mais si tu comprends rien là-dedans, tu pourras jamais interpréter réellement ce qui se passe et tu pourras pas te positionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ta sphère agréable et tu vas obéir pour aller chercher tes votes, pour que ça paraisse bien. Je nommerai pas de nom, c'est très clair ce que je dis là. Donc, ça s'appelle de l'incompétence. Tu peux pas te permettre de gérer un pays et ne pas connaître ces choses-là sans te mettre le pied dans la bouche, sans arrêt, mais que ça a donc ben l'air bon. Et c'est, on creuse notre tombe présentement en donnant des fausses attributions causales à des phénomènes. Et je pense qu'on donne beaucoup trop de place aux militants qui démolissent le core de ce qu'on essaie d'accomplir.
Mais en même temps, après un politicien qui arrive demain matin puis qui décide de ne pas, de faire abstraction, en fait, complètement du discours militant, par exemple, qui est quand même assez puissant, surtout sur les médias sociaux, qui a un grand pouvoir de rassembler aussi. Le politicien qui arrive puis qui dit « Moi, je me bats contre ça, c'est terminé. »
Mais c'est ça. Mais là, c'est comme, tu as deux choses. Il faut que tu vois la situation clairement. C'est comme de l'analyse d'une situation, puis après ça, tu as une intervention. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Quel message on va lancer? Quelles sont les politiques qui soutiennent ça? Donc, c'est ça du leadership. C'est une analyse qui est complexe. Et donc, c'est pas juste aller à la lutte d'un côté ou de l'autre. C'est une question de savoir-faire, c'est une question d'angle, c'est une question de priorité, c'est une question de voir clair. Puis aussi, embarquer le monde dans ce projet-là. À un moment donné, là, toi, t'es politicien, t'es leader national. Là, t'as un projet, OK, faut que tu crées la meilleure qualité de vie dans ton pays. Embarque-nous, montre-moi ta vision, montre-nous en quoi, comme je le disais tantôt, il est où notre potentiel. Ouais.
Vends-nous un projet de société.
Vends-nous un projet où on se reconnaît. C'est ça le leadership. Puis c'est plus compliqué qu'avant. C'est pas juste ça va bien aller, puis on va faire ça. Puis ça prend plus de connaissances maintenant, puis on est vraiment, mais vraiment pas là. On est encore hypnotisé par les catégories et ça n'existe pas. Donc,
c'est sûr que les qualités pour être un politicien aujourd'hui en 2021 ne sont pas les mêmes que dans les années 80, par
exemple.
Non,
même pour faire des ressources humaines dans les entreprises, les ressources humaines sont dépassées. Ils savent plus quoi faire avec les humains. C'est, la tâche avec les humains change parce que le cerveau a besoin d'être compris dans ses différents besoins, puis ses fondements, puis ses mécanismes. On peut pas dealer avec des humains sans comprendre comment le cerveau fonctionne. On est rendu là en psychologie.
Alors même dans les entreprises, au niveau des ressources humaines, il faut que les gens qui vont travailler en ressources humaines demain matin aient des aptitudes en psychologie et soient capables d'affronter le feu si feu il y a. Là,
oui, puis de façon bienveillante, de façon solide, avec poigne, puis avec respect. Mais faut voir clair. Si tu vois pas clair, tu vas être intimidé par tous les groupes militants qui vont vouloir te canceller sans arrêt. Puis moi, ce que je souhaite, c'est des politiciens qui se tiennent debout.
Puis comment on se comporte face aux enfants à ce moment-là, qui vont devenir les politiciens de demain, qui vont devenir les travailleurs de demain? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire, selon toi, dans le système d'éducation pour mieux construire des humains fonctionnels pour l'avenir?
Ben oui, puis souvent j'ai des demandes de personnes pour que je m'implique dans des CPE au niveau de l'éducation. Puis je leur dis, mais c'est quoi vos priorités? C'est quoi vos axes? C'est comme la priorité, ça doit être le courage, la responsabilité, la communication, la gestion des émotions négatives, être fier. C'est ça que des enfants doivent être capables de construire parce qu'ils vont construire leur vision d'eux, non pas de leur catégorie ou pourquoi ils pensent qu'ils souffrent ou qu'ils souffrent pas. On va les rendre forts, leaders de leur propre vie. Et donc, entre autres, être capable de faire en sorte qu'un enfant puisse choisir des objectifs et accomplir lui-même ses propres buts de façon autonome. Ça, c'est quelque chose qui a montré. Personne ne parle de ça. C'est complètement, oh non, on veut faire la promotion de l'égalité de... Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est des relations, travailler ensemble, gérer de la communication. C'est des choses qui sont beaucoup moins glamour que ce qu'on dit dans les médias. Mais c'est ça la priorité. C'est ça un humain qui est fonctionnel puis qui va bénéficier de toutes ces habiletés-là tout au long de son primaire et son secondaire. Fait qu'il faut que ça parte sur des bonnes bases.
C'est le travail de ta vie, en tout cas, Guillaume, si on peut le dire. Là, c'est ça vraiment qui est sorti depuis le début de l'émission.
Je ne fais pas ça seul. C'est le fun de travailler en équipe aussi, je vais te dire.
Ça, c'est clair. Mais Guillaume, la bonne nouvelle, et là, on arrive aux bonnes nouvelles, c'est que le discours que tu as tenu cet été, l'émission qu'on a faite ensemble, l'éducation que tu nous as apportée sur la psychologie, ben ça va se poursuivre ici à l'antenne de Cogeco. Vous savez que dès lundi prochain, c'est la programmation régulière qui revient en onde. Si vous écoutez le matin à Paul Arcand, ben vous savez que depuis quelques mois maintenant, je suis chroniqueuse dans l'émission de Paul Arcand. C'est mon mandat régulier. C'est à ça que je retourne dès lundi prochain. Alors, c'est là où vous pourrez me suivre. Et Guillaume fait partie de la famille Cogeco maintenant.
Ben
c'était
oui.
Certain qu'on n'allait pas le laisser partir, vous savez bien. Nathalie Normando commence sa nouvelle émission dès lundi prochain de 10h à midi. Et Guillaume, environ une heure par semaine, tu vas accompagner Nathalie dans son émission.
Ben oui, c'est un super grand privilège. C'est très récent que je l'ai su. Là. Même j'ai eu ma première rencontre avec Nathalie et toute l'équipe ici. Ça va être super le fun. Je suis très excité. Grand honneur pour moi, de continuer sur les ondes du 98.5. Grand honneur de partager les ondes avec Nathalie.
Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu vas faire avec elle, de ton mandat?
Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on fait là. On va décomposer des sujets. On va se baser sur l'actualité. Évidemment, moi, je vais, ben là, c'est une nouvelle relation. Là. Moi, je suis habitué de travailler avec toi, mais là, ça va être comme un autre univers auquel je vais m'adapter. C'est le show de Nathalie. Fait que moi, je vais embarquer dans sa culture à elle. Donc, je vais m'adapter à sa personnalité. Je vais apprendre à la connaître. Je vais apprendre à avoir du fun avec elle, rendre ça interactif. Puis, je ne sais pas exactement comment ça va se matérialiser. Je sais qu'on va parler de sujets intéressants. Je sais qu'on va se challenger. J'ai bien l'intention de challenger Nathalie. Je pense qu'elle est capable d'en prendre. Puis, je pense que ça va être très intéressant. Mais on va parler de psychologie. Ça, c'est clair. On va essayer de lire entre les lignes pour essayer d'avoir une vision différente des choses, un petit peu dans la même veine que ce qu'on fait là.
Écoute, ça va être très, très intéressant.
Oui,
on va suivre
très
ça.
Hâte.
Est-ce qu'on sait c'est quoi la journée? Est-ce qu'on a un rendez-vous déjà de prévu pour cette intervention-là?
Alors, ça va être les jeudis de 11h à midi que je vais être sur les ondes avec Nathalie.
Alors, c'est un rendez-vous les jeudis de 11h à midi. Guillaume Dulude accompagnera Nathalie Normando dans sa nouvelle émission.
Oui.
En fait, tu vas apprendre à connaître Nathalie probablement en même temps que les auditeurs vont apprendre à connaître Nathalie également. Parce que Nathalie va avoir sa propre émission. Vous la connaissez certainement pour la commission Normando-Ferrandaise le matin dans l'émission de Paul Arcand. Là, ça va être une autre Nathalie que vous allez connaître complètement. Ouais. Je pense que sa personnalité va sortir davantage. Nathalie, qui est une femme extraordinaire, vraiment, c'est impossible de ne pas aimer Nathalie une fois qu'on la connaît. Oui. Je vous le dis, là, vous allez l'adopter, ça sera vraiment pas long. Et les auditeurs sont déjà très contents de savoir que tu vas rester avec elle, Guillaume.
Aussi,
ça, c'est le fun.
Et sinon, ton côté, peut-être, tu peux nous en dire.
Oui, moi, c'est le matin aussi. Je retourne à mon mandat, puis j'ai bien hâte également. On va certainement continuer de communiquer ensemble, Guillaume et moi. Ça, c'est sûr.
Ben,
et
oui.
Guillaume, il reste à peu près une minute à l'émission Ni noir ni blanc. Qu'est-ce que tu retiens de ton été, des 8 dernières semaines?
Ah, mon Dieu, une minute pour sortir une affaire à la main.
C'est pas beaucoup de temps.
Plaisir. J'ai adoré l'interaction avec le public. Pour moi, c'est une job de relation. Puis moi, je l'ai senti, cette espèce de relation-là avec les auditeurs. On a eu droit à des confidences extraordinaires.
Oh,
puis on en parlait tout le temps. Les gens disaient tout le temps, comment c'est, le monde vous dit ça en onge? Ben oui, mais c'est parce que c'est une question de confiance. Ça a l'air drôle à dire, mais il faut créer une espèce de relation de confiance. Puis je pense que cette relation-là de confiance part de l'interaction de toi et moi. Je pense qu'on a travaillé à avoir du fun ensemble, puis se parler, puis être proche, puis avoir du fun. Puis je pense que ça a contagié jusqu'aux gens qui étaient à la maison.
Ah oui, puis ça, je veux dire en passant, merci pour votre transparence et votre honnêteté.
Oui.
Le degré de confidence qu'on a reçu dans les 8 dernières semaines, c'est hallucinant. Il y avait souvent des commentaires même de gens qui disaient « Je peux pas croire que cette personne-là a appelé pour vous raconter ça. Ça n'a pas de bon sens. »
C'est ça.
Mais on était visiblement très, très heureux. On était très contents, mais je pense qu'il y avait une aisance aussi mutuelle entre les auditeurs et nous. Alors, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, vraiment.
Merci à tout le monde.
Vraiment, ça a été une superbe aventure avec vous. Merci à la direction de Cogeco d'avoir eu l'audace de mettre cette émission-là en ordre. Deux personnes qui se connaissaient absolument pas il y a 8 semaines maintenant.
Oui.
Et c'est une belle relation d'amitié et professionnelle qui s'est développée.
Ah oui, puis merci Elisabeth.
Alors, merci à toi vraiment. Puis j'ai bien hâte de t'entendre avec Nathalie Normandeau. Ça va être une autre ambiance complètement.
Oui.
Et sinon, merci aux auditeurs. Je vous souhaite un excellent
week-end. Merci aux metteurs en ondes.
Absolument.
N'est-ce pas? La recherche et tout ça, le plein de beau monde.
C'était une belle aventure, ni noir ni blanc. Maintenant, c'est terminé et on s'en va vers d'autres aventures. Guillaume, on continue à te suivre sur tes plateformes personnelles également. Merci une dernière fois aux auditeurs d'avoir été là. On se retrouve lundi tout le monde. Et Guillaume, on te retrouve ici jeudi prochain.
Ben oui.
À 11h. Merci tout le monde. Salut.